Anatomie d'une rentrée avec aujourd'hui toute l'équipe du Débrief Film et un retour bien sûr sur le Barbenheimer et tout ce qui vous a barbé ou enchanté pendant l'été. Tout de suite, c'est le retour d'Opening Weekend.
Débrief Film, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Quel plaisir de vous retrouver fidèle ou post-fidèle à l'écoute de ce podcast pour une nouvelle saison qui s'annonce pleine de succès, pleine de rebondissements, pleine de tout. Et pour nous en parler aujourd'hui autour de la table magique du cinéma Les Sept Batignolles, j'ai le plaisir d'avoir déjà parmi moi, parmi nous, ça commence bien cette histoire, Jérémy Trekesser. Bonjour Jérémy.
Bonjour Aurélien, bonjour à toutes et à tous.
Mafili Makalou, bonjour Mafili.
Bonjour à tous.
Qui vient d'arriver, qui est un petit peu essoufflé, c'est normal. En plus, il fait chaud dehors. Et Tom Abrahami, salut Tom.
Salut à tous.
Je disais, ravi d'être avec Jérémy et Mafili qui n'étaient pas là pour le podcast de clôture de la précédente saison, mais qui sont là et toujours aux commandes, bien sûr. Notre ami Max Marjolais, je ne sais pas s'il peut dire un mot. Salut Max.
Coucou.
Coucou à tout le monde et merci d'ailleurs aussi à ceux qui étaient là pendant l'été, notamment à l'UGC Léal, pour les deux séances un peu particulières dans le cadre des 100 ans de Warner, puisqu'elles étaient, conjointement présentées par UGC et par Débrief Film, à savoir Ready Player One, que vous pouvez d'ailleurs écouter en podcast. Alors on s'excuse pour la qualité d'enregistrement qui n'était pas du niveau de celle de ce podcast aujourd'hui, mais... En tout cas, il y a quand même un petit reste de cette présentation. Et puis aussi celle de Batman. C'était la semaine dernière, Batman de Tim Burton. Et vous étiez très nombreux dans la salle. Donc si vous étiez là, merci du fond du cœur. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés pendant l'été, car il y en a un certain nombre, et qui nous ont peut-être même découvert sur la plage ou sur la route. Ce podcast, on le fait évidemment pour vous et tous vos soutiens, tous vos partages. Quels qu'ils soient, nous font évidemment chaud au cœur. On aura l'occasion, comme on le disait dans la dernière émission de la saison précédente, de revenir vers vous avec plein de bonnes nouvelles là prochainement. Mais aujourd'hui, on va d'abord et avant tout parler de cet été qui n'est pas tout à fait fini. Nous sommes le 21 août au moment où on enregistre ce podcast, mais avec une odeur déjà de rentrée, avec cette palme d'or Anatomie d'une chute qui sort mercredi, synonyme eh bien, de la reprise vraiment des choses sérieuses côté sortie de film. Et c'est un été, comment on pourrait le qualifier cet été déjà? De surprenant peut-être?
Pas de tous les records, mais en tout cas rassurant pour tout le monde. Même plus que rassurant, je dirais enthousiasmant, puisqu'on a bien vu qu'il y avait des films qui ont été en mesure de s'imposer, et s'imposer durablement, c'est pas juste des effets de mode, mais c'est des films qui, on va le voir tout à l'heure, qui sont restés 5, 6, 7, 8 semaines en haut de l'affiche.
C'est oui, avec des scores qui dépassaient toutes les attentes. Toi Jérémy, quelque chose t'a marqué d'abord? Parce que il faut quand même rappeler que la dernière fois qu'on était ici, c'était le soir de l'avant-première de Barbie au Batignolles et qu'on sentait quelque chose arriver. Mais alors de là à voir le raz-de-marée débarquer, là c'était complètement fou.
Moi je me demande, est-ce que Barbie va pas un petit peu changer une partie de l'industrie sur le nouveau type de film qu'on voit arriver? Parce que quand on pense que donc Barbie c'est certes une franchise, mais c'est avant tout des jouets. Et surtout, à la différence des comics, ce n'était pas des histoires qui étaient racontées aux enfants, c'était les enfants qui se racontaient leur propre histoire avec ces petites poupées. Mattel est à l'origine de la production de ce film qui est devenu un véritable phénomène. Est-ce que demain, des marques vont prendre possession du média cinéma pour communiquer autrement? Parce que là, finalement, ce qu'a fait Mattel, d'une certaine manière, c'est parler de sa marque, parler de ses produits. Parce que, par exemple, tu vois, il y a eu aussi le Tour de France sur Netflix, il y a eu la F1 aussi avant, qui sont avant tout des initiatives des fédérations pour parler du sport, de leur sport différemment et par conséquent faire leur promotion. Peut-être que dans les années à venir, on aura, j'en sais rien, Louis Vuitton qui fera un film sur l'origine de la marque, le fait que c'était au départ des mâles, donc par exemple un film sur le voyage, donc un autre type de storytelling pour parler indirectement de la marque, mais finalement à la fin...
D'ailleurs, juste pour rebondir,
en faire un discours d'une certaine manière tout de même promotionnel, puisqu'à la fin, ce qui compte, en tout cas, surtout quand on voit le nombre de partenariats qu'ont effectué Warner et Mattel, c'est de créer de la valeur économique.
Ce qu'on peut quand même dire, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que Gran Turismo est aussi à l'initiative de Nissan. Et Michelin est très lié, on l'a vu déjà même sur la campagne promo, et évidemment PlayStation. Et tout ça mis bout à bout, ça crée aussi quelque chose d'assez unique et dans un été qui regorge de ça. On va laisser la parole après à Tom.
On peut quand même rappeler aussi qu'il y a une marque très connue en France, puisque c'est la marque de mode Yves Saint Laurent, qui a créé sa société de production. Donc ça montre aussi que des marques qui avant communiquaient de manière, on va dire, plus traditionnelle avec des campagnes publicitaires, des campagnes d'affichage, maintenant se rendent compte de la puissance du cinéma.
Tom, tu voulais dire quelque chose ?
Non, je voulais abonder dans le sens de Jérémy, simplement pour parler de ce phénomène-là et de l'attrait des gens pour les histoires industrielles. Et on l'a vu peut-être davantage sur les plateformes, mais quand on voit le succès de... Alors le succès, on imagine, parce qu'on a difficilement des chiffres, mais le succès de R, le film sur la franchise Air Jordan.
Et le succès qu'il aurait pu avoir en salle.
Et le succès qu'il aurait pu avoir en salle, en tout cas, du moins le succès qu'il a eu dans les pays où il a pu sortir en salle, mais dans une moindre mesure le succès de Tetris.
Sur Apple TV.
Voilà, qui également raconte une histoire industrielle. Est-ce que justement on rentre pas dans une ère où on va avoir de plus en plus de films qui vont créer du storytelling autour d'une marque? Barbie l'a fait d'une manière, Tetris et Air l'ont fait d'une autre. Je sais qu'il y a des films Uno qui sont déjà signés notamment. Eux vont le faire, j'imagine, d'une autre manière encore. Ça va être un mouvement intéressant à suivre, et c'est peut-être déjà le début d'un sous-genre qui est en train de se créer.
À noter d'ailleurs, hein, évidemment, qu'on peut ajouter à cela Super Mario, puisque Super Mario et Barbie sont aujourd'hui en passe d'être les numéros 1 et 2 de l'année 2023, sachant que Super Mario ne raconte pas l'histoire de la marque Nintendo, mais va plutôt dans un autre biais qui est peut-être un peu plus classique, parce que le personnage lui-même est vecteur déjà d'histoire.
Exactement, c'est
à la
ce
base.
Qu'on disait. Là où Barbie, pour le coup, on est parti vraiment d'un produit qui était confié aux enfants et eux-mêmes se racontaient leurs histoires. Et là, d'un coup, on a complètement explosé l'idée de départ.
En tout cas, le fait qu'à quelques semaines d'intervalle, la même major, en l'occurrence Warner, sorte Barbie et Blue Beetle, qui, on va le voir, ne rencontre pas du tout le succès. Ça montre aussi peut-être, alors il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives, mais on constate quand même un léger affaissement, pour ne pas dire gros affaissement sur certains titres du film, de l'attrait pour les films de super-héros. Et là, on sent, comme vous le disiez, peut-être un moment de bascule. Max, tu voulais intervenir ?
Ouais, troisième d'ici de l'année. Et a priori, troisième échec.
Écoute, ne tirons pas de conclusions hâtives.
On va y revenir. Voilà. Blue Beetle, on ne peut pas le réduire à un échec. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en retenir.
Ma fille, on ne t'a pas entendu sur ce sujet. Est-ce que tu voulais dire quelque chose ? Non, tu te réserves pour la suite. Pour l'instant, elle se réserve. Elle prépare, elle regarde un peu où on en est sur le sondage Twitter sur lequel on reviendra en fin d'émission. Alors, à noter qu'on va parler d'abord, évidemment, du box-office US et international. Et là, il faut aussi dire quelque chose. Si on s'attarde d'abord sur le box-office international, il y a un film dont personne ne parle aujourd'hui en France et qui est pourtant numéro 1 encore du week-end écoulé, tout film confondu dans le monde. C'est un film chinois, il s'appelle No More Bets, donc pas plus de Paris, hein, il est question de...
Plus de Paris.
Voilà, plus de Paris. Et il est sorti, je le disais, uniquement en Chine au début du mois d'août, et il cumule 371 millions de dollars de recettes à date. Et là, il est à 58 millions encore sur le week-end écoulé. Pour vous situer, c'est au-dessus de Meg 2, donc la suite dans nos troubles, en nos très troubles, qui lui en est à 316 millions de dollars. Et c'est bien évidemment très très loin devant Blue Beetle, qui là sur le Worldwide Estimate, donc sur l'ensemble des recettes dans le monde, en est ce week-end à 43 millions de dollars. C'est évidemment quand même en demi-teinte par rapport aux attentes escomptées, sachant que, je le disais, le premier c'est No More Bets, suivi de Barbie, qui, lui, cumule sur ce week-end 48 200 000 dollars pour un cumul, et là on va aussi peut-être s'attarder dessus, à plus d'un milliard de dollars. Je sais que l'information a beaucoup circulé dans les médias cet été, mais peut-être revenir aussi là-dessus. Quel film a dépassé le milliard de dollars depuis le début de l'année ? Peut-être qu'on peut le rappeler.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Super Mario Bros. Peut-être Les Gardiens de la Galaxie ?
Écoute, je n'ai pas l'information sous les yeux, mais on va vérifier. On va vérifier parce que Julien Bernard devait venir à ce podcast. Il nous a envoyé toutes les infos, mais uniquement par mail, parce que Julien est peut-être... sur la station Mir ou quelque part, quelque part comme ça, il regarde l'ensemble du globe tourné, il reviendra avec nous la semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que les films à plus d'un milliard de dollars se font très très rares et que personne n'attendait évidemment un score aussi élevé pour Barbie.
Max a la réponse.
Pour l'instant, il y a uniquement Super Mario Bros et Barbie, et Les Gardiens de la Galaxie 3 est à 845 millions.
C'est loin, il est très très loin. Il est loin derrière. En tout cas, ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur ces deux leaders de 2023 qui semblent partis pour le rester un certain temps, surtout au vu des grèves qui menacent la sortie de quelques films pour la fin de l'année. On verra ça dans les semaines à venir. Je le disais, donc Barbie 2e, Blue Beetle 3e, Oppenheimer qui lui aussi, dont on va évidemment reparler parce que c'est exceptionnel, on le dit peut-être pas assez, mais la performance réussie par Oppenheimer, plus de 700 millions de dollars pour Oppenheimer. C'est tout simplement le quatrième plus gros succès de l'année, hein, tout film confondu. C'est assez phénoménal puisque c'est au-dessus de Fast 10 qui faisait 704 millions et au-dessus de Spider-Man Across the Spider-Verse qui faisait 686 millions. Donc on le disait, un premier Mario, deuxième Barbie, troisième Guardians of the Galaxy, quatrième Oppenheimer. Quand on sait qu'Oppenheimer est certes basé sur un personnage réel, mais l'adaptation d'un roman et avec l'exigence du film en termes à la fois de proposition esthétique et de durée, c'est quand même tout à fait exceptionnel.
Et quand on sait aussi qu'Oppenheimer n'a pas été leader du marché.
Oui,
très rare de voir un film qui se place aussi haut dans les tops sans avoir été premier une seule semaine du marché.
Effectivement, aussi en termes de recettes en IMAX, là aussi il faut quand même signaler qu'il est je crois quatrième derrière les deux Avatar, Star Wars Le Réveil de la Force et Avengers, donc il est cinquième pardon derrière tout cela. C'est dire, c'est quand même des énormes franchises, retrouver là c'est quand même assez fou. Donc on aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur son succès en France, mais à l'international c'est aussi un immense plébiscite pour le film de Nolan, qui est d'ailleurs, il faut le signaler aussi, hein, le plus gros succès de Nolan dans quelques territoires, et pas des moindres, puisqu'il est dans 51 marchés, le plus gros succès à date d'un film de Christopher Nolan, dont les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres. On a ensuite Meg 2, j'en parlais en préambule, qui atteint quand même 316 millions en soi, c'est déjà pas mal du tout.
En eau très trouble.
En eau très trouble, merci Tom. Après, d'autres films, Papa, qui est sorti qu'en Chine avec tout de même 20 millions de dollars de recettes. Un autre film chinois, La création des dieux, partie 1, Creation of Gods, part 1, qui a fait quand même 310 millions de dollars de recettes, c'est complètement fou. Les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenagers, qui fait 118 millions à date à l'international.
Teenagers, qui est le titre français.
Oui.
Et le titre VO est Mutant Mayhem.
Ouais, alors merci pour la précision, effectivement. Et après, Strays, qui est un peu la surprise du moment aux États-Unis.
Donc, ça, c'est Backstreet Dogs en français.
Backstreet Dogs, merci pour la précision. Il sortira quand ?
En novembre ?
Fin novembre,
ouais, fin novembre.
Il est sorti là ce week-end, on va en dire un petit mot, qui était à 10 millions au cumul. Et Mission Impossible, on en a beaucoup parlé lors de la fin de saison dernière, qui a quand même franchi les 500 millions de dollars avec 541 millions, ce qui est quand même un beau succès, même si on va le revenir dessus, mais c'est peut-être un peu décevant quand on regarde dans le détail.
Il limite quand même la casse à l'international, hein, parce que vu le démarrage, on pouvait s'attendre au pire, et finalement, il s'en sort pas si mal sur la durée. C'est pas un succès, mais ça sort pas si mal.
Il limite la casse, effectivement. Alors maintenant, qu'est-ce qui limite la casse ou pas au box-office américain? Il faut quand même dire que Blue Beetle finit premier du week-end. Selon les dernières estimations, de peu, hein, puisqu'il a 25 millions de dollars pour son premier week-end, avec Barbie qui est juste derrière à 21 500 000. Barbie qui lui en est à la cinquième semaine, cinquième week-end, tout comme Oppenheimer qui est à 10 millions, qui est toujours sur le podium. C'est beau et au cumul, évidemment, Barbie est loin devant avec 567 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Oppenheimer, 285 millions, énorme succès aussi. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, qui fait 88 millions. Et je disais, Strays à la cinquième place avec 8 millions. C'est plutôt un beau démarrage pour ce film Universal. Et puis derrière, quoi dire si ce n'est que il y a la ressortie d'Old Boy qui a fait quand même 880 000 dollars de recettes le week-end dernier. Donc ça, c'est plutôt une petite surprise. Mais rien d'autre. À signaler quand même que la maison hantée, on peut pas dire que ce soit un succès. Hein. 58 millions de dollars de recettes, c'est quand même un peu dur. Et le dernier voyage du Déméter qui sort là cette semaine en France, qui cumule seulement 11 millions. Autant dire que là, la douche est très froide.
C'est peut-être, si on doit nommer un perdant de l'été, c'est peut-être la maison hantée finalement. En rapport budget de production et rentabilité, c'est peut-être lui qui est le grand perdant pour l'instant de l'été.
Ouais, même si en France, je trouve que c'est moins le cas. C'est pas non plus un gros succès, mais bon, mais je suis d'accord avec toi que ça n'a pas du tout été un blockbuster, même si on va voir que Disney s'est pas mal rattrapé sur un autre film, puisque le Pixar élémentaire, aux États-Unis, fait 151 millions de dollars. Et en France, on va le voir tout à l'heure, c'est aussi un beau succès. Bref, vous l'aurez compris, box-office encore dominé par le succès d'Oppenheimer et de Barbie, et la déception de Blue Beetle. Alors, est-ce qu'il en est de même en France? Eh bien, c'est l'heure de faire une petite pause.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Alors, voilà le moment que vous attendez tous, ce point sur un box-office. C'est vrai qu'en vous laissant quelques semaines sans chiffres, vous vous êtes peut-être dit, mais mince, je ne sais plus, je ne suis plus au courant de rien. Où en étions-nous niveau millions d'entrées, niveau 100 000 entrées, niveau 10 000 entrées? Il est l'heure maintenant de laisser la parole à Tom.
Oui, alors, pour être tout à fait exhaustif, il aurait fallu reparler les 5 dernières semaines pour vraiment faire tout le récap. Mais comme on n'a pas 3 heures comme Oppenheimer, on va faire plus court et on va s'attarder sur le dernier week-end passé qui va nous permettre d'avoir une analyse globale, en tout cas sur les 4-5 dernières semaines. Et d'abord constater, si on parle du marché au global, un petit fléchissement sur ce dernier week-end par rapport au week-end précédent. On est sur un moins 12% avec un marché qui dépasse les 2 millions d'entrées tout de même en 5 jours. Après, il n'y a rien d'inquiétant évidemment à ce niveau-là. On est sur des semaines supérieures à 2020, 2021, 2022 et on n'est pas très loin de 2019.
Oui, mais c'est quand même, déjà en soi on le disait, hein, mais une belle surprise d'en être ici, parce que d'être supérieur à toutes ces années-là, c'était pas dit non plus qu'on arrive à être aussi proche de 2019.
Ouais, et surtout il y a eu un très beau mois de juillet, notamment avec la sortie de Barbenheimer. Il y a eu des résultats qui étaient vraiment supérieurs à 2019 sur la deuxième quinzaine de juillet. Et après, avec le retour du soleil et des beaux jours, on a un peu fléchi depuis 2 semaines, comme disait Tom.
Et si on s'appuie sur les chiffres de nos amis Rentrac, on constate que au 22 août, l'année 2023 actuelle est seulement en recul de 9,5% par rapport à l'année référence 2019, ce qui est en soi une très bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle, avec aussi côté français des surprises. Hein. Peut-être avant de commencer par Barbie et Oppenheimer, ce qui peut sembler une évidence, peut-être dire quand même qu'un film d'1h15 ou 1h10, je crois.
1h07.
Voilà, soyons précis. A fait pas mal parler de lui depuis 3 semaines.
Ouais, tout à fait, Yannick, de Quentin Dupieux. Alors, on a l'habitude d'avoir un Quentin Dupieux tous les ans, si ce n'est peut-être même tous les 6 mois ces derniers temps. Mais en tout cas, celui-là s'en sort plutôt très très bien, avec 244 000 entrées à l'issue de son troisième week-end. Il est sur la route du plus gros succès d'un film de Quentin Dupieux. C'était Incroyable mais vrai, qui avait terminé à 317 000 entrées. C'est possible, il peut dépasser, en tout cas il va dépasser probablement Steak, qui est le premier film de Quentin Dupieux qui avait fini à 290 000 entrées. Voilà, très très beau succès pour ce film qui, on peut le dire, donne en tout cas la part belle à ses acteurs.
Et Steak, qui était sorti pour la fête du cinéma, je m'en souviens, qui était vendu comme un film d'Eric et Ramzy, ce qui était évidemment très différent de leur production de l'époque.
Et donc, très déceptif pour les fans d'Eric et Ramzy.
C'est clair.
Mais ils s'attendaient à voir La Tour Montparnasse infernale en pleine cambrousse.
C'est ça. Mais là, il faut en tout cas aller voir ce film très étonnant.
Yannick, qui bénéficie notamment de sa courte durée, parce qu'avec 1h07, il a la possibilité de multiplier les séances, ce que ne peut pas faire un film comme Oppenheimer de 3h ou même tous les films quasiment qu'on a à l'affiche, qui sont tous autour de 2h voire plus. Et donc avec 1h07 seulement de durée, le film, non seulement il peut multiplier les séances sur ses écrans, mais il peut aussi combler les trous et finir les programmations, et il bénéficie vraiment de beaucoup de séances. Mmh. Et c'est très bénéfique pour lui, on l'a vu.
Ce que je trouve marrant quand même, c'est qu'Yannick, qui est un film français, prend le contre-pied de tout ce que proposent les États-Unis en ce moment, c'est-à-dire un film court et un film avec une campagne marketing extrêmement resserrée, puisque c'est quasiment, enfin, c'est un film surprise. Ouais. Il est arrivé personne n'en avait entendu parler. On a eu un jour une annonce, un titre, deux teasers. Ouais, je crois deux teasers, pas de bande-annonce.
Et une affiche étonnante aussi.
Et une affiche. Alors, quand on regarde, qui reprend un peu les codes d'un des maîtres de Quentin Dupieux, c'est Bertrand Blier, notamment Trop belle pour toi, pour ceux qui iront regarder sur Google ou sur la jaquette de leur DVD préféré. Mais ça montre qu'une fois de plus, les Français ne font pas comme tout le monde et que ça marche.
Et alors, tu parlais de tous les films américains au niveau de la durée.
Je parle des gros blockbusters récents.
Pardon. Parce que je voudrais, si ça ne vous embête pas, qu'on s'attarde aussi sur peut-être la surprise vraiment de cette semaine. On l'a vu dès le sondage de la semaine dernière, pour ceux qui nous suivent maintenant sur X, hein, puisqu'on a changé de saison et Twitter ne s'appelle plus Twitter. Sur X, vous aviez plébiscité Reality. Il a été en tête des démarrages au HAL mercredi dernier, un peu à la surprise générale. Et puis, il s'est retrouvé dans une très belle position au top week-end, en tout cas en moyenne par copie.
Ouais, tout à fait. Reality, sorti par, on le rappelle, Metropolitan, sorti resserré hein, sur 107 écrans, et qui a une très belle moyenne de 326 entrées par écran. 35 000 entrées, je le disais, 35 500 entrées à l'issue de ces 5 premiers jours. On est sur un film qui devrait faire ses 100 000 entrées, si tout va bien, si avec une bonne tenue. En tout cas, c'est la belle surprise de cette semaine, troisième des démarrages.
Et un film qui, comme Yannick, hein, est plutôt grande ville, avec un COEF Paris-Provence très faible, hein, de 2 contre 3-2 pour Yannick.
Ouais, mais c'est souvent l'apanage des films indés américains sans cast connu. Ouais.
Mais évidemment, c'était pas pour non plus forcément déjouer les attentes, mais ce ne sont pas les plus gros succès de cet été. Si on s'attarde sur le haut du box-office, eh bien, je crois qu'on retrouve les deux films qu'on annonçait en sortie lors de la dernière émission.
Eh bien, ça fait 5 semaines qui se suivent.
Voilà, on n'avait pas besoin de faire d'émission pour 5 semaines, c'est la même chose qu'il y a 5 semaines.
C'est un jour sans fin. c'est un débriefing sans fin, pardon.
Et de loin en plus. C'est ça qui est fou, c'est que, voilà, on va en parler tout de suite. Mais vas-y, Tom, je te laisse enchaîner.
Non, le numéro 1 et le numéro 2 sont les mêmes, dans le même ordre, depuis 5 semaines. Ils perdent chacun très peu, semaine après semaine, très peu d'entrées. Et ils gardent sensiblement le même écart. Je parle évidemment de Barbie en première position et Oppenheimer en seconde. Évidemment, Barbie a l'avantage, hein, et ça depuis la première séance du premier jour, avec un cumul à l'issue de son cinquième week-end de 4 825 000 entrées. Le film réalisé par Greta Gerwig et sorti par Warner devrait, en tout cas on peut l'espérer, terminer sa carrière autour des 5,5 millions, voire 6 millions d'entrées.
Moi, je mise sur 6. Allez, je suis optimiste.
Bah, en tout cas, il ne semble pas s'arrêter là tout de suite. Et on va voir, mais 4 800 000, c'est vrai qu'on est proche là, des 5. Et tout est encore possible.
Ils vont réussir un petit peu ce qu'ils avaient réussi, je crois que c'était en 2019 avec le Joker.
Ouais, mais
c'est-à-dire vraiment un film qui est connecté à un univers quand même assez vaste, Batman, mais sur lequel beaucoup de gens avaient des doutes, à savoir est-ce que c'est un coup de génie ou alors un coup d'épée dans l'eau.
On peut rappeler quand même que le numéro 1 de l'année pour l'instant, c'est Super Mario Bros. Avec 7 300 000 entrées.
Et ça paraît assez compliqué d'aller le chercher pour le coup.
Mmh. Ouais, clairement. Et Barbie, qui par contre est déjà la troisième comédie US de tous les temps en France, derrière Le Dictateur et Madame Doubtfire. Alors il peut aller chercher Madame Doubtfire, mais Le Dictateur à 8 millions, ça va être compliqué.
C'est une sacrée stat en tout cas. Du coup, c'est la meilleure comédie US en France du 21e siècle.
Oui.
On peut le dire comme ça.
Ouais, c'est la meilleure
depuis 2000. Et en couleur.
Madame Doubtfire, c'était combien, on t'a dit ?
Madame Doubtfire, c'était 4,9 millions.
Ah ouais, d'accord.
Et quand même, hein.
Ouais, c'est fou. Hein. On n'aurait pas pensé que.
Ah bah ça paraît des chiffres totalement irréalisables aujourd'hui pour une comédie populaire familiale.
À une époque, on va le rappeler, où il y avait quand même beaucoup moins de sorties, où les multiplex n'étaient pas encore développés.
Allez, retour dans les années 90.
Non, mais c'est bien de rappeler qu'on est au début des années 90 pour Madame Doubtfire et que le marché, mais le parc de salles ne sont pas du tout les mêmes.
Donc vous l'aurez compris, c'est évidemment le deuxième résultat de l'année. Il risque de s'accrocher longuement. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'un film, avant la fin de l'année, soit capable d'aller lui prendre cette seconde place.
J'ai même 5 millions d'entrées pour Madame Doubtfire, excuse-moi. Ah ouais, j'ai vérifié sur CBO. Mais effectivement, c'est assez fou. Donc, écoute, en tout cas, il faudra voir si un film, d'ici la fin de l'année, peut prétendre rivaliser avec Barbie. Ça serait,
moi, j'en vois pas.
Là, non. Pour l'instant, on n'en voit pas. Donc, peut-être avons-nous déjà.
En même temps, vous ne voyez pas Barbie. Hein.
Effectivement, tout est possible.
Mais Barbie était quand même dans les radars. C'est-à-dire qu'on savait que ce film allait arriver. Il était vraiment très, très scruté. Donc, il y avait quand même au moins déjà un buzz médiatique. Il était dans toutes les conversations.
Du buzz médiatique, c'est devenu un phénomène de société parce qu'il y avait des spectateurs qui n'avaient pas du tout l'intention d'y aller au départ, qui sont allés aussi grâce au bouche à oreille, notamment dans les salles à réessais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salles à réessais qui reprennent le film en 4-5e semaine, voilà. Du coup, qui s'ouvre encore un public plutôt âgé qui n'y serait pas allé.
Je voulais d'ailleurs faire un petit point sur le mot à réessais, puisque chaque mois, on voit les films, l'AFCA envoie la liste des films recommandés ou non à réessais. Et au départ, donc, ni Oppenheimer ni Barbie n'étaient encore recommandés, ils étaient en attente. Et finalement, Oppenheimer a été recommandé, mais Barbie ne l'a pas été. Donc après, c'est sujet peut-être à discussion. Vous pourrez, au sein même de votre famille, discuter de est-ce que Barbie est un film à réessai ou pas, sachant que Greta Gerwig et Noah Baumbach avait jusqu'à présent plutôt eu la recommandation à réessai, mais qui, alors que Christopher Nolan à ses débuts ne l'avait pas. C'est comme ça. Mais en tout cas, ils sont partagés à ce niveau-là. C'était la petite anecdote, sachez-le. Donc les salles à réessai qui reprennent Barbie, sauf changement improbable de dernière minute, n'auront pas de film. Ça ne rentrera pas dans les quotas à réessai de prendre Barbie, contrairement à Oppenheimer. Voilà, c'est, parenthèse refermée. Mais effectivement, donc ils sont toujours en tête et ils devraient peut-être le rester, à moins que la Palme d'Or cette semaine ou un autre film type. Je sais pas moi, Rétribution, Equalizer, Hypnotique viennent chambouler un peu l'ordre du jour. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. On n'a pas parlé encore de Blue Beetle. Alors,
ni d'Oppenheimer non plus, on n'est pas rentré en détail.
On n'a pas parlé
d'Oppenheimer.
On parle que de Barbie en fait.
C'est un peu le poulie d'or de cet été, Oppenheimer.
C'est ça. C'est ça.
Mais bon, quand même.
Avec quand même un chiffre assez fou au cumul.
247 000 entrées pour son cinquième week-end, une perte de moins 20% et un cumul énorme, enfin surtout quand on voit les résultats des autres films de Christopher Nolan, dont certains qui sont devenus cultes. Aujourd'hui, Oppenheimer, c'est 3,6 millions, donc c'est quand même déjà beaucoup plus qu'Interstellar, c'est plus que ce Dark Knight, enfin c'est déjà le troisième film en France.
D'ailleurs, Dark Knight Rises et Inception. Inception
exactement, Dark Knight Rises qui a fait 4,4 millions et Inception 4,9 millions. Bon, à un moment, on s'était dit qu'il pouvait peut-être aller chatouiller Inception. Maintenant, ça paraît quand même très compliqué, mais il peut clairement aller chercher les 4 millions et pourquoi pas les 4,2 millions en attendant. Là, je parlais de Marc tout à l'heure. Là, clairement, ce qu'il en ressent, enfin moi, ce que je constate, c'est que Universal a vraiment fait un travail, enfin a repris tout le travail qui avait été extrêmement bien fait par Warner depuis des années, à savoir quand on va voir un film de Christopher Nolan, peu importe le cast, peu importe le sujet, c'est la marque Nolan, donc le réalisateur qui devient un vrai repère sur un marché. Je crois qu'à part Tarantino et peut-être Scorsese, on en aura la confirmation ou non avec Killers of the Flower Moon en octobre, je crois qu'il n'y a que ces réalisateurs-là qui aujourd'hui arrivent à faire venir des publics extrêmement variés partout dans le monde, simplement sur leur nom.
Et je tiens quand même à rappeler, parce qu'effectivement on peut penser à Tarantino, mais le meilleur score à date de Tarantino en France, ça reste Django Unchained, avec 4 300 000 entrées. Mm. Score que pourrait atteindre Oppenheimer en fin de carrière.
C'est vrai que c'est quand même assez compliqué de lire la carrière d'Oppenheimer, notamment à cause ou grâce de sa tenue depuis le début, puisque le film perd très peu chaque semaine. Au début, sur les premières semaines, on était sur du moins 14, du moins 15%, du moins 16%. Il y a eu une baisse un peu plus significative en quatrième semaine où il a perdu plus de 30%. Et puis là, de nouveau, on se retrouve sur uniquement un moins 20%. Et ce qui fait que finalement, in fine, si on regarde en détail, il suit la même carrière au même moment qu'Inception. Mmh. Après, là où on pense qu'il fera pas autant qu'Inception, c'est que Inception avait commencé plus haut et avait une tenue qui était juste phénoménale. Et voilà, certains indicateurs, et notamment la concurrence qui arrive, montrent qu'il sera pas simple de tenir ce rythme-là, voire quasiment impossible. Mais à date, on est sur ce schéma-là, un schéma à la Inception.
Moi, j'ai la même lecture que toi, Tom, sur Oppenheimer par rapport à Inception, justement, où c'est le comparable que je prends depuis 3 semaines tous les lundis. Et il est vraiment exactement au même niveau. Après, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il a eu sa chute la plus forte quand le marché a chuté fort. Quand le marché a chuté de 40, plus de 40%, Oppenheimer a chuté de 30%. Et là, on peut s'attendre à ce que dans 2 semaines, le marché chute fort avec la rentrée. Ouais. Et là, du coup, c'est là que le bas risque de blesser pour Oppenheimer.
Avec toutefois, donc, on parlait tout à l'heure, il y a un score de Tarantino que pour l'instant, Oppenheimer n'a pas franchi. Il est déjà au-dessus de tous les Scorsese. Ever, si j'ose dire, puisque Shutter Island, le plus gros succès, qui était à 3 100 000, et le Loup de Wall Street à 3 000 000
tout court. Ouais,
donc c'est déjà au-dessus de tous les Scorsese sortis jusqu'ici.
Mais il n'est pas encore au-dessus de tous les James Cameron.
Pas encore, là ça sera un peu compliqué. Mais c'est dire quand même que.
Ni de tous les Nakash et
Toledo. On arrive, non mais il faut quand même dire qu'on arrive avec Oppenheimer à un niveau de succès où les comparables se font rares, en tout cas pour ce type de film, ce type de réalisateur, un film de 3, si on prend en plus dans l'équation film de 3 heures non adapté d'une franchise mais adapté d'un livre, comme d'ailleurs l'était Shutter Island au passage,
et pas avec une superstar,
ou en tout cas il y a des superstars mais elles sont plutôt au second plan,
exactement.
Donc c'est tout à fait phénoménal, ce succès.
Et qui plus est, plus que Bohemian Rhapsody,
et qui plus est
mais ça c'était dans l'ancien monde, Max.
Et qui plus est, qui est en plus en embuscade derrière un autre énorme succès. Quoi. Donc c'est tout à fait remarquable.
Oui, juste tu le disais pour préciser, Bohemian Rhapsody, 4 300 000.
Voilà, exactement.
Ça peut être un objectif, en effet, pour Oppenheimer.
On verra. Ensuite, donc, Blue Beetle.
Ah, on y vient.
Blue Beetle, 3e du classement.
Premier démarrage de la semaine.
190 000 entrées. Alors, je le disais en préambule, c'est un avis qui est, je pense, assez personnel mais partagé.
Un succès.
Ce n'est pas un succès, mais ce n'est pas un échec. Pourquoi ? Parce que c'est pas un film qui est fait pour la France. C'est un film qui a comme ambition de toucher un public latino-américain. Parce que, on le rappelle, le personnage principal et sa famille sont latino-américains. Donc c'est un film fait pour ce marché-là. Marché qui n'existe quasiment pas en France, évidemment. Donc faire 190 000 entrées tout de même avec ce film-là, c'est une belle performance. Et c'est là où je trouve assez injuste de le comparer aux autres DC Comics, puisque voilà, il y a beaucoup moins de passifs sur Blue Beetle que sur les autres DC.
Faudrait le comparer avec Shang-Chi, peut-être, qui avait à peu près la même approche. Mais
ouais. Une approche communautaire, oui, tout à fait.
Mais moi, je partage pas tout à fait ton point de vue, Tom, parce que, en tout cas sur la France, je pense que la perte va être un peu plus importante en deuxième semaine que sur les autres DC. J'y vais au doigt mouillé, certes, mais
après,
c'est une intime conviction.
C'est vrai, pour le coup, tu as raison, Tom. C'est vrai que la France, c'est vraiment un marché plutôt secondaire, a priori, sur ce film. Mais le truc, moi, ce que je me dis, c'est surtout qu'on ne peut pas s'empêcher de voir le moment, il y a 3 ans, où les films de super-héros marchaient tous et faisaient tous un minimum, et où du coup, moins de 200 000 entrées en opening week-end sur un film DC. C'est compliqué. Après, on en a déjà parlé quand il y a eu Shazam, quand il y a eu The Flash. On sait que DC, il y a une restructuration qui est en cours. Là, on est sur un des derniers films de l'ère d'avant, on va dire.
T'es sûr? Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était déjà un des premiers de la nouvelle ère.
James
Enfin, en tout cas, j'ai.
Ça me paraît bizarre, ce qu'il est arrivé il y a quoi?
Il est arrivé en mars, le film était tourné. Donc après, peut-être qu'il va s'insérer dans l'univers, comme Joker s'insère dans l'univers. Mais
on a déjà dit pour Flash que c'était le dernier de la dernière ère. Donc.
Parce qu'on avait oublié Blue Beetle.
Ouais, exactement. Blue Beetle, il a été quand même. On n'a pas vu d'image.
Mais j'ai lu aussi qu'il aurait peut-être. Enfin, il n'était pas forcément prévu pour une sortie sale, un peu comme Batgirl.
Ça, c'est pas de sortie du tout, ça.
Oui, oui, qui a été effacé complètement. Mais enfin, peut-être, en tout cas.
Effacé par Arnold Schwarzenegger.
Peut-être, l'effaceur. Non, juste pour rappeler quand même que Shang-Chi faisait 422 000 à l'issue de son premier week-end. Bah,
c'est le double, hein, quand même.
Voilà.
C'est aussi la différence aussi fondamentale et importante à comprendre entre Marvel et d'ici aujourd'hui, c'est-à-dire que Marvel est capable de faire émerger n'importe quel nouveau personnage, ouais. Quand DC a beaucoup plus de mal à entre guillemets valeur d'origine égale, c'est-à-dire peu de connaissances.
Bah, c'est bien pour ça qu'ils sont allés chercher James Gunn pour justement restructurer tout ça et créer un univers un peu plus cohérent.
Et même 400 000 sur Shang-Chi, faut se rappeler que c'était en 2021, qu'on était sur un marché plutôt mou et que c'est pas un score très, très fort pour le film, c'est un score un peu mou quand même. Et
il avait fini à 1,4 million. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Blue Beetle, donc à suivre tout de même, surtout pour les prochaines sorties de films de super-héros, on regardera ça de près. En autre est trouble. Qui s'en sort plutôt pas mal par contre. Oui.
Bah, c'est même un très bon score, hein, puisque à l'issue de son troisième week-end, il est à 1 244 000 entrées. Et c'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup, puisque le premier épisode était au même niveau après 3 week-ends. Voilà, il y a une passion en France pour les mégalodons, faut croire.
Et pour
Jason Statham, évidemment.
Statham plus requin, c'est 1,6 million à l'arrivée. Voilà, c'est le nouvel indicateur.
Non, mais c'est fou parce qu'on est sur des purs films d'exploitation comme on en voit très peu. Ouais. Et puis voilà, ça passe le million d'entrées en même pas 20 jours.
J'ai pas envie non plus que ça soit qu'un concert de louanges envers Warner, mais je trouve que c'est très intéressant ce type de film puisque quand on regarde la bande-annonce, c'est vraiment le mélange parfait entre le film à la fois horreur-catastrophe comme pouvait être un Destination Finale, ouais, et le film d'action à la Fast and Furious. C'est-à-dire ils ont réussi à mélanger plus ou moins deux genres qu'on pensait pas forcément
compatibles,
et ça donne des films, voilà, pour le coup vraiment des films d'exploitation, des films popcorn, mais qui marchent.
En tout cas, Warner a 3 films dans le top 4 et 3 propositions assez différentes. Barbie, Blue Beetle et Un autre est trouble, qui chacun vont dans des directions différentes. C'est presque théorique sur ce que pourrait être le cinéma hollywoodien de demain, si ce n'est pas celui d'aujourd'hui.
Et ce qui est intéressant quand on regarde ces 3 films, c'est qu'on se dit il leur manque un film très adulte. Mais au fil des semaines, Barbie est devenu ce film très adulte, finalement. Et c'est ça qui est intéressant, et du coup, il couvre un peu tous les publics.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs même la vraie surprise du succès de Barbie, c'est qu'on pouvait se demander à qui il s'adressait au départ, et finalement, il s'adresse à tout le monde.
Notamment aux jeunes. Moi, il se trouve que j'étais en Italie le jour de la sortie, et devant un multiplex, j'ai été très surpris de voir un groupe de jeunes, et quand je dis jeunes, c'était des jeunes adolescents, donc 12-14 ans maximum, filles et garçons.
Pareil en France, c'était pas la peine d'aller jusqu'en Italie.
Tu pouvais être au Batignolles ici même pour l'enregistrement, il y avait envoyé les spectateurs.
Il se trouve que j'y étais et c'est
important de souligner.
Ça montre quand même que voilà, à un moment on est un pays certes de cinéma, mais un pays comme l'Italie qui a environ un marché qui représente environ 50% de la France a réagi exactement pareil.
Voilà, et pour finir sur En eau très trouble, ça n'a rien à voir avec Piège en eau trouble, qui n'a jamais donné de suite à Piège en d'autres troubles.
Les années 90, toujours, on y revient, toujours.
Tom, ensuite, on avait une autre sortie côté animation, cette fois-ci.
Ouais, tout à fait, Les As de la Jungle 2, chez SND, donc en animation, comme tu l'as dit, qui démarre à 200 000 entrées. SND commence à se faire un peu le spécialiste de ces sorties d'animation tardives sur l'été. Il l'avait déjà fait avec Tad l'Explorateur.
C'était Paramount, Tad l'Explorateur.
C'était Paramount.
Mais ils l'ont déjà fait par le passé, et notamment avec le premier As de la Jungle, qui s'en était plutôt déjà bien sorti. Mais là, c'est un beau démarrage quand même.
C'est un joli démarrage, mais évidemment, contrairement aux autres films d'animation sortis plutôt dans l'été, ils auront moins de temps pour faire leurs chiffres, puisque la rentrée, c'est déjà dans à peine 10 jours. Donc on risque d'avoir une carrière resserrée. Éventuellement, ils peuvent profiter de ce qu'on appelle les MSD, les mercredis, samedi, dimanche, à partir de la rentrée. Donc c'est-à-dire des séances concentrées sur le mercredi, samedi, dimanche, donc les jours des enfants, et qui pourront traîner comme ça jusqu'à, faute de concurrence, hein, sur ce créneau-là, jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Ça peut être un
coefficient multiplicateur très très intéressant pour eux derrière.
Méfions-nous de nos analyses hâtives sur les films d'animation, on va y revenir avec Élémentaire, mais c'est vrai que... Alors, on l'avait vu déjà en début d'année, évidemment, avec le Chapeauté 2. Mais il y a des succès sur la longueur tout à fait remarquables. Et déjà, là, 200 000 entrées pour un démarrage, c'est plutôt pas mal.
Si on compare 200 000 entrées, c'est nettement plus que ce que SND avait fait justement à l'automne dernier avec Samurai Academy, qui avait passé le million d'entrées au final.
Ouais, qui avait été l'un des très, très beaux succès de la saison dernière.
C'est devenu vraiment très dur de lire les carrières des films d'animation, tellement elles se font maintenant sur la durée, entre chaque période de vacances aussi.
Alors après, on a un film qui est sorti par Sony, mais qui n'est pas encore sorti aux États-Unis. Ça a été l'une des surprises de cet été, le décalage in extremis de la sortie de Gran Turismo.
Ah, et l'autre surprise, c'était que le territoire français maintienne sa date de sortie sur Gran Turismo.
Mais c'est fou, ça. C'est le seul territoire à l'avoir maintenu ou
C'est pas le seul territoire, mais il y a eu un peu de tout.
D'accord.
Impossible, bon. N'est pas français.
C'est très curieux comme stratégie tout de même.
Écoute, on essaiera d'en savoir plus.
En termes de piratage, notamment.
Quand le décalage a été annoncé aux US, la vérité, c'est que c'était impossible de le décaler en France. Il y avait déjà toutes les avant-premières qui étaient calées. Il y avait déjà la sortie qui était calée. Il y avait plein de choses qui étaient déjà dealées. Donc. Le décalage, il n'était pas possible. En plus, il n'est pas souhaitable sur le marché français. On est quand même un marché qui est très spécifique et qui surperforme l'été et qui sous-performe en septembre. Sortir Gran Turismo à la fin du mois d'août, ça aurait été compliqué quand même. On n'aurait pas fait le même score.
Alors, je vous avoue que ce film, je l'attendais impatiemment, étant un fan de Gran Turismo depuis les années 90 un peu. J'étais fan, mais j'y reviens, désolé, mais le premier est sorti à la fin des années 90.
PlayStation 1.
Exactement, et a fait les grandes heures de plusieurs consoles PlayStation. Tom, qu'est-ce que ça a donné au final ?
Eh bien, on est sur une carrière, on est à 10 jours d'exploitation pour l'instant, 175 000 entrées au deuxième week-end, 555 000 entrées au total des 10 premiers jours. On est plutôt dans les clous, hein, je pense, sur le film.
C'est honnête.
C'est pas mal.
C'est plus qu'honnête. Hein.
C'est plus qu'honnête, mais j'espère qu'il pourrait être drivé, si vous me permettez l'expression, par le succès à l'international du film qui arrive certainement.
Le film, en plus, chute assez peu en deuxième semaine. On n'a pas la chute exacte, mais on est aux alentours de 28-30%. Et pour le coup, le film plaît vraiment pas mal. Il y a des échos qui sont plutôt très positifs. Il y a une note qui est à 4,2 sur Allociné, notre spectateur, alors que la note presse est pour le coup très basse. Et donc, a priori, on est sur un film qui peut faire sa petite carrière et qui peut tenir sur la fin de l'été tranquillement.
Ouais, la barre des 850 000 entrées paraît atteignable sur le film.
Ouais, en vrai, on est à... est-ce que ça fait 900, 800 ou est-ce que ça fait 1 million ? A priori, plutôt 900, 800.
Moi, je dis 950.
Mais on verra, mais en tout cas, on verra surtout, on suivra de près la carrière internationale dans les prochaines semaines. Ça sera très intéressant, notamment au Japon et aux États-Unis, de voir comment ils se comportent. Ensuite, on a un autre film, alors là, dont on avait parlé avant de se quitter, puisque c'était un des films très attendus de l'été du côté de Paramount.
Oui, tout à fait. Ninja Turtle Teenage Years. Donc chez Paramount, comme tu l'as dit, qui est sorti il y a 2 semaines désormais. De week-end, pour être plus précis.
En même temps, Gran Turismo.
En même temps, Gran Turismo.
J'espérais que ce serait le Tortellismo Day, et ça ne l'a jamais été.
C'était pourtant, clairement le Tortellismo Day.
Pourtant, moi, j'étais à fond sur le Tortellismo Day.
Mais mine de rien, des carrières pas si éloignées. Hein. Ninja Turtles va atteindre là les 400 000 entrées, en passe de les atteindre. On est sur une carrière qui est sensiblement similaire à Spider-Man premier du nom, Spider-Man New Generation.
Et on est sur un titre VF très similaire aussi, parce qu'on a, moi c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'on a un titre anglais qui est très compliqué a priori à sortir en France. Mmh. Et du coup ça a été traduit avec un autre titre VF, Teenage Years au lieu de New Generation. Moi je trouve ça assez amusant et on a une carrière qui est très similaire aussi.
Voilà, et pourquoi on compare aussi ces deux films? C'est parce que l'animation de ces deux films est très similaire, une espèce d'animation un peu comics.
Ouais. Une animation très cool en fait.
Très cool, oui, c'est ça.
Ouais, vraiment étonnante. De toute façon, il faut bien se le dire, hein, beaucoup de propositions esthétiques étonnantes du côté US cet été, que ce soit Barbie, que ce soit Oppenheimer, que ce soit Ninja Turtle ou même Gran Turismo, que j'ai l'occasion de voir en IMAX, qui est assez sidérant dans ces scènes de course. Il y a eu beaucoup comme ça de propositions assez atypiques, donc c'est intéressant. Autre film Paramount derrière.
Ouais, là, on va passer un peu plus vite parce qu'on en avait déjà parlé avant notre coupure estivale. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, qui est désormais donc en 8e position à l'issue de son 6e week-end. 2 421 000 entrées. Le constat est le même qu'il y a 5 semaines, à savoir qu'on est sur un film qui déçoit tout de même au niveau national, qui ne passera pas les scores du précédent épisode, à savoir Fallout, qui avait atteint tout juste les 3 millions d'entrées.
Alors qu'on rappelle que Frédéric Moget, ici présent pour le podcast, avait annoncé que l'ambition c'était d'être le plus gros succès de la franchise Mission Impossible, de passer les 4 millions d'entrées.
Depuis le 3, chaque Mission Impossible a fait plus que le précédent, et c'est le premier à ne pas faire plus que le précédent.
Voilà. Donc ce ne sera pas le cas pour Ethan Hunt sur cet épisode. Il restera évidemment, comme vous l'avez compris, Dead Reckoning Part 2 pour essayer de rectifier le tir.
Et le succès sur la longueur...
Le marathonien, merci.
Le long lead.
Exactement. Derrière, c'est qui?
Ouais, c'est évidemment Élémentaire qui a surpris tout le monde par sa carrière et qui s'affirme comme le nouveau Encanto. Alors pourquoi le nouveau Encanto?
Ou le nouveau Chapeauté 2,
mais j'aime bien Encanto.
Ah,
parce
faut
que...
comparer Disney avec Disney, voilà, ça n'a pas leur faire.
Pas Disney, c'est Pixar.
Non, mais ça reste la même maison, donc allons-y avec cette comparaison. En tout cas, voilà, un film qui va passer, on est sûr hein, maintenant, les 3 millions d'entrées. Il n'y est pas encore, mais la trend est telle que qui va y arriver d'ici la fin de l'été. Voilà, un film qui avait démarré plutôt timidement, timidement avec des guillemets, mais qui a tenu vraiment, qui avait vraiment l'air insolite depuis le début et qui tient très 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 bien.
C'est un très très beau, très très beau travail une fois de plus de Walt Disney
sur la longueur,
sur la longueur. La tenue des films. Ouais.
Bah, c'est quand même, quand on regarde, c'est quand même leur grande force, même sur les films qui n'ont pas forcément des retours presse, que les retours spectateurs d'Élémentaire sont très bons. En presse, ils étaient un peu plus mitigés. Et peu importe les potentiels détracteurs qu'ils ont, ils arrivent toujours à maintenir les films à l'affiche avec une très belle exposition. Enfin, il y a un vrai travail de fond, je trouve, qui est fait par ce distributeur, qui est quand même assez admirable.
Et ça montre aussi qu'une des forces de Disney, c'est d'être une marque en soi, en fait, sur l'animation.
Ah bah,
c'est le Disney de l'été. Et en fait, il y a eu Miraculous qui a fait un démarrage bien plus impressionnant que ce qu'a fait Élémentaire. Mmh. Le Disney de l'été, c'était le Disney de l'été, et il a été un des trois.
Mais ça,
tout l'été.
C'est le seul distributeur, de toute façon, aujourd'hui, qui est une marque. On parle des marques aujourd'hui, c'est vraiment le seul distributeur aujourd'hui qui est une marque qui a une puissance d'évocation telle que on a beau dire, peu importe le film, tant que c'est estampillé Disney, il y a tout un imaginaire qui se déploie, et les familles...
Sur l'animation surtout.
Sur l'animation, mais aussi sur les films familiaux, quoique on va peut-être en parler dans quelques instants.
Et merci à Julien Bernard pour le chiffre, mais je pense qu'il mérite d'être cité, c'est tout simplement le record de tenue pour un film d'animation, puisque voilà, sur un film classique on a un démarrage, on a un chiffre démarrage et on a un chiffre fin de vie. Sur un film classique on est autour de x3, ouais, entre le démarrage et la fin de vie. Là on est à x7,5.
C'est complètement fou.
Combien c'est chapeauté pour le coup,
Je l'ai, je vais te le dire. Il a fait 6,7.
Et déjà à l'époque, on disait que c'était un record. Comme quoi,
Encanto avait fait 6,8 et là on est à 7,74.
Et si on vous dit ça, c'est pas uniquement pour les chiffres, mais pour que vous compreniez bien que les habitudes des spectateurs changent, vos habitudes évoluent. Et on voit comme ça sur des indicateurs, que ce soit le chapeau des deux ou élémentaire, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'opère là dans la carrière de certains films. Et c'était important de le souligner. On a parlé des 9 premiers films, il n'y en a aucun français dans ceux-là. Il faut atteindre la 10e place pour trouver...
Il y a Les As de la Jungle qui est français, c'est français.
C'est Les As de la Jungle, pardon, qui est côté animation. Alors, il n'y avait aucun film live français, excuse-moi.
Coucou Rico.
Il faut aller sur une marque aussi, Les Blagues de Toto. Ouais. Les Blagues de Toto 2 qui arrive en 10e position avec 531 000 entrées. C'est SND qui l'a sorti, donc 531 000 entrées au cumul en 3 week-ends, c'est plutôt pas mal. Hein.
SND très présent hein, cet été. Ouais. Hein.
Avec aussi La Main, qui a été un gros succès à son niveau, parce que 423 000 entrées pour un petit film d'horreur qui n'a rien coûté du tout.
C'est, film d'horreur australien sans cast, ouais.
C'est énorme.
Et à moins de 16 ans.
Quand on voit que, par exemple, un Black Phone, donc Blue Mouse, avait fait 400 000 entrées,
c'est très impressionnant d'en arriver à 423 000 entrées.
Je crois que là, dans le film d'horreur récemment, c'est la plus grosse surprise qu'on ait vue ces dernières années.
Et on parlait de propositions visuelles étonnantes, hein, mais La Main a été vraiment remarquée, je crois, par Guillermo del Toro, qui a dit beaucoup de bien du film.
L'élément fou, c'est vraiment ce qu'a dit Tom, c'est moins de 16 ans. Un moins de 16 ans qui a fait plus de 400 000 entrées.
Ça, il faudrait chercher, ça se trouve pas.
C'est un film à 24, je crois.
Juste quand on dit moins de 16 ans, c'est-à-dire c'est un film qui est interdit en salle aux spectateurs de moins de 16 ans. Pourquoi c'est aussi important de signaler ça? C'est qu'il y a des salles, pour des raisons notamment de sécurité et de contrôle des cartes d'identité, qui refusent de sortir les films interdits aux moins de 16 ans pour des raisons de praticité. Donc ça enlève forcément du potentiel au film, et que le film réalise de telles entrées malgré cette embûche-là, c'est d'autant plus remarquable.
Et il y a toute une partie aussi du public de films d'horreur qui est un public vraiment adolescent. Et donc il y a vraiment toute une partie de ce public qui a 12, 13, 14, 15 ans et dont le film est privé quand il est interdit en salle au moins de 16 ans.
Et notamment, on parle souvent des problèmes de piratage sur ce type de film, comme quoi ça peut avoir vraiment de grosses répercussions sur le box-office. Une fois de plus, preuve en est, pas du tout. Donc tant qu'il y a des prescripteurs, on va dire Guillermo del Toro, et que le public s'en empare, et que c'est dans les conversations, dans les tendances, notamment sur ce réseau social X, les attitudes changent. Avant, on aurait pu dire non, mais ce film, on le téléchargera illégalement ou légalement, mais on le regardera plus tard. Là, il n'en est rien.
Et à signaler que SND, donc, on en parlait tout à l'heure, mais avait sorti aussi Miraculous au début de l'été, qui était donc devant Élémentaire à son démarrage, et qui là a fait moitié moins d'entrées finalement au cumul, ou presque, puisqu'il est à 1 577 000 entrées à l'issue de son 7e week-end. Rapidement cité aussi Les Dégains 2, qui a été un beau succès pour Apollo.
Exactement le même score que le premier épisode.
484 000 entrées.
Donc, simplement aussi... Si on doit citer quelque chose d'un peu plus négatif, la preuve qu'ils n'ont pas réussi à ratisser au-delà du public déjà conquis sur le premier épisode, ou déjà acquis, puisque le film fait la même carrière à 15-20 000 entrées près.
Et on n'a pas parlé d'Indiana Jones, qui pourtant était au cœur de nos discussions à la fin de saison dernière. Il fait combien au final?
Arthur l'a vu 3 fois, il en parlera quand il reviendra.
Hein. Il est responsable du tiers des entrées du film en France.
2 874 000 entrées, avec en 8e week-end 33 000 entrées. Pas sûr qu'on arrive aux 3 millions. Hein. Ça va serrer les fesses pour y arriver. Quoi.
Déception, je trouve.
En tout cas, le précédent avait fait 4 199 et les autres étaient 5 684 pour le Temple Maudit. La dernière croisade, c'était 6 249
000. Pour Indiana Jones, a priori le 4e film de l'été, c'est pas fou.
On aurait tous parié 3 millions avant la sortie.
Et pour un film en plus qui a été présenté à Cannes, qui était l'un des événements du Festival de Cannes.
C'est vrai que dire avant l'été que Oppenheimer et Barbie seraient au-dessus de Mission Impossible et Indiana Jones, c'était pas forcément gagné.
Pas dans l'ordre des choses.
Indiana Jones avec la franchise et la présentation à Cannes, il marchait dans les pas de Top Gun, qui fait quand même 5 millions l'année dernière.
Et ni même qu'Élémentaire serait au final au-dessus d'Indiana Jones et de Mission Impossible. Oui. C'est ça qui est complètement étonnant.
Les temps changent, Aurélien. Les temps changent. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les Algues Vertes, peut-être un petit mot dessus.
Grosse surprise. Enfin, grosse surprise.
En tout cas, un beau succès pour Aurélien Court.
Quand on regarde les films français, les films dossiers un petit peu, je me souviens qu'il y avait eu Rouge, notamment, je crois que c'était Ad Vitam qui l'avait sorti, qui était aussi passé par une des sélections parallèles de Cannes. Le film dossier à la française, ça peut faire pchit comme ça peut décoller. Et là, quand ça décolle, ça fait un score qui est quand même extrêmement, extrêmement fort. Il va faire 400 000 entrées.
Rappelons que Oikor avait sorti la nuit du 12 l'année dernière.
Exactement. Mais celui-ci est arrivé un peu plus discrètement.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, tout à fait.
Mais 352 000 entrées pour l'instant.
C'est un peu le Dark Waters français.
Autre film, Tom, que tu voulais citer
Puisqu'on est sur les arrêts, parlons un petit peu des FIDOLFA et son dispositif tout à fait singulier de docu-fiction. Donc film qui lui était présenté en compétition officielle à Cannes, sorti par jour de fête, 117 000 entrées. C'est évidemment un très joli résultat pour le film. On peut également citer, puisqu'on a beaucoup parlé de lui cette année, on l'a eu d'ailleurs en interview, Pierre-Francisco Favino, il est toujours à l'affiche
du Colibri
qui émarge.
On a fait une interview d'ailleurs de la directrice de Laurence Paname, Laurence Gachet,
qui émarge à 50 000 entrées à l'issue de son troisième week-end. Ça sera tout de même le plus petit score pour un film de Pierre-Francisco Favino en 2023, puisque ça sera moins que Nostalgia et moins que Dernière Nuit à Milan.
Et aussi à noter d'autres films qui quand même font des beaux résultats. Hein. Je pense à Il Bohemo de Nour Film qui franchit les 100 000 entrées. On est aussi côté...
Je crois que c'est le record pour Nour Film d'ailleurs, il me semble. Si je dis pas de bêtises.
Côté
on doit être en tout cas sur la fiction. C'est un record pour Nour Film.
Et donc on les salue. Côté Art House, encore un beau succès. Avec cette fois Rendez-vous à Tokyo qui fait 53 000 entrées. Ils sont abonnés au film, on le disait, à plus de 100 000 ou en tout cas à plus de 50 000 maintenant.
C'est pas fini surtout, il va continuer.
Tout à fait. Sur La Branche aussi qui s'en est pas mal tiré, chez Pyramide avec 70 000 entrées. Bon, c'est pas non plus fou, mais c'est quand même plutôt pas mal. Enfin voilà, plusieurs films. Alors évidemment, on pourrait revenir aussi sur les films qui n'ont pas marché. Il y en a eu certains. On s'était quitté sur l'échec de Ruby, l'ado Kraken, où il y a eu Yo Mama qui a fait 170 000 entrées. C'est quand même un peu décevant. Un coup de maître aussi, Rémi Besançon qui fait 55 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end.
First Slam Dunk,
50 000 entrées. Chez Whale Bunch, qui fait 55 000 entrées.
Les meutes Chad Vitam, 29 000 entrées.
Voilà.
Ça, ce sont des
Animalia aussi.
Et veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, 143 000 entrées chez UGC.
Ça, c'est une grosse surprise. Hein.
Ouais. Et puis le Manoir Hanté, on ne l'a pas cité, mais finalement, 668 000 entrées pour un film Disney adapté d'une attraction.
N'est pas Pirates des Caraïbes qui veut.
Exactement, n'est pas Pirates des Caraïbes qui veut. Voilà, bon, on a fait un petit tour d'horizon. On reviendra bien sûr dessus dans les prochaines semaines. Longue émission, mais il fallait se retrouver et surtout maintenant parler de la semaine à venir en quelques mots. Peut-être que Mafili va nous dire un ou deux mots sur le sondage Twitter. Mafili.
Pour le sondage Twitter, cette semaine, il y a 10 nouveautés donc, à découvrir mercredi au cinéma. Et parmi eux, nous avons sélectionné...
Parmi ces films.
Oui, c'est vrai. J'allais dire ces nouveautés plutôt. Donc,
oui, ces nouveautés. Non,
les deux fonctionnent.
Les deux fonctionnent.
Tous les deux raisons.
Allez, Bernard.
Féminin, masculin, vous choisissez.
Masculin, féminin, comme disait.
On va dire nouveautés. On va être féminin et beaucoup de masculin. donc, il y a Hypnotique, le film avec Ben Affleck.
Film de Robert Rodriguez.
Voilà. Qui était à Cannes.
Oui, qui était en Sens de Minuit.
Sens de Minuit, là, tout à fait.
Et La Palme d'Or, Anatomie d'une Chute.
De Justine Trier, on aura peut-être le pacte en interview mercredi matin justement pour cette sortie ô combien importante.
Rétribution avec, je le dis en français, le film avec Liam Neeson.
Distribué par Studio Canal, qui aura une grosse rentrée Studio Canal, on y reviendra dans les prochaines émissions.
Et enfin, Le Dernier Voyage de Demeter.
Du Demeter. Mais d'ailleurs, sur Terminus, c'est écrit deux Demeter. Nos amis de Terminus, il faut changer. C'est Universal qui le distribue. Et c'est évidemment le film dont on parlait tout à l'heure qui n'a pas très bien performé aux États-Unis. Alors je crois qu'il y avait ces quatre films dans le sondage. Et qui s'impose pour l'instant
en tête de très loin, c'est Anatomie d'une Chute avec 76%.
Et derrière, ça se joue entre quoi et quoi
Très très loin derrière, on a Hypnotique 14% et Le Dernier Voyage du Demeter 9%.
Et Rétribution
1%.
1% seulement, dommage pour Liam Neeson, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas un certain nombre à aller le voir.
Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue des films où Liam Neeson tue tout le monde ?
Peut-être, on ne sait pas. Mais là ils le vendent en tout cas comme une suite presque d'Une Journée en Enfer, et rien que pour ça, parce que tu connais mon penchant pour les années 90, ça me donne presque envie de le voir.
Tu connais mon amour pour ce film, surtout.
C'est sûr, il y a une bombe sous son siège, je crois, il tue pas tout le monde, il doit s'échapper.
C'est quand même réussi à dire que c'était entre Speed et Une Journée en Enfer, le level est très haut.
J'allais dire Speed et Hypertension.
Ouais, voilà, bon, on verra. En tout cas, il y aura effectivement plusieurs sorties la semaine prochaine. Il y aura aussi côté KMBO La Guerre des Dieux, côté Sony Psychopass Providence. C'est une sortie classique ou c'est une sortie sur une journée
C'est une sortie sur deux jours uniquement, uniquement le vendredi et le samedi.
D'accord.
Avec uniquement une séance par salle, le vendredi ou le samedi.
Donc voilà, un animé qui sort de façon un peu singulière. Infiltré chez l'atelier distribution.
Qui vient du Guatemala, c'est rare.
Oui, un film guatémaltèque.
Très bien. Mais écoutez, en tout cas, il faudra peut-être aller le voir. Les fantômes d'Istanbul, c'est à la 25e heure. Vera, c'est chez les films de la Talente. Ma vie est un défi, c'est chez Jupiter Film. Et puis après deux reprises, le fantôme d'amour et Cher Papa chez les Acacias.
Ah, magnifique. Dino Risi. Il faut aller le voir.
Voilà. Donc, on a fait le tour de ces sorties.
Lequel il faut aller voir ?
Les deux, tout Dino Risi.
Il faut tout aller voir si vous pouvez.
Si on peut.
Tom, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, juste préciser que cette semaine a lieu le festival du film francophone d'Angoulême.
Et oui, démarre, et qui est toujours un indicateur un peu des tendances à venir. Alors il y aura beaucoup de films, on reviendra d'ailleurs en début d'émission prochaine sur les attentes des uns et des autres, sur les mois à venir et justement les potentiels de ces films. En tout cas, nous, ça nous faisait plaisir de vous retrouver ici au Batignolles pour cette émission de reprise. On espère que vous y voyez un petit peu plus clair là sur les entrées de cet été, et si vous êtes encore en vacances, profitez bien, et sinon bonne rentrée à tous. Et à bientôt sur Débrief Film. Merci à toute l'équipe.
Merci.